RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel Ma Langue. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie est prête à établir une coopération plus étroite avec l'Inde. L'importance de l'inclusivité du développement de la région Indo-Pacifique. L'Université de Bung Karno collabore avec l'ambassade du Venezuela. L'ambassadeur d'Indonésie a remis ses lettres de créance au président du Portugal. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le premier ministre indien Narendra Modi est venu en Indonésie pour une visite officielle pour rencontrer le président Joko Widodo au Palais Merdeka mercredi. L'arrivée du premier ministre Modi a été saluée par une cérémonie d'État et continuée sur la conversation en véranda, puis la réunion bilatérale entre les deux délégués. Dans un communiqué de presse conjointe, le président Joko Widodo a révélé que l'Indonésie et l'Inde ont convenu de renforcer le partenariat stratégique. Avec un partenariat stratégique global, le président estime que les relations bilatérales entre les deux pays seront plus fortes et meilleures.
Kekokohan hubungan ini tidak saja membawa keuntungan bagi masyarakat.
Le renforcement de cette relation profite non seulement aux populations des deux pays, mais aussi à la stabilité et à la prospérité de la région. En 2019, l'Indonésie et l'Inde célébrent 70 ans les relations diplomatiques et diverses activités seront menées pour rapprocher notre société. L'Indonésie est prête à établir une coopération plus étroite, meilleure et plus forte avec l'Inde. Le premier ministre Modi a déclaré que les deux pays devaient travailler ensemble sur la base de l'Indo-Pacifique, car en tant que partenaire stratégique, les deux pays et d'autres pays de la région Indo-Pacifique était responsable de la sécurité dans la région des maritimes. Dans le cadre de la réunion bilatérale entre les délégations indonésiennes et indiennes, une coopération a été créée, entre autres dans le secteur de la défense, le cadre de l'accord entre les gouvernements indonésiens et indiens sur la coopération pour l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, et le mémorandum d'accord sur la coopération technique dans le secteur ferroviaire entre le ministère des Transports de la République d'Indonésie et le ministère des Chemins de Fer de la République de l'Inde. Le chef de l'Agence d'évaluation et l'élaboration des politiques du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, M. Siswo Pramono, a déclaré que le concept de l'Indo-Pacifique et le concept de développement de la région devraient être l'une des principales sources de la croissance économique, les centres commerciaux et dans le monde industriel. Pour réaliser cette question, on a besoin d'une inclusivité, surtout dans le secteur économique qui permet à différents pays à se joindre. Il a été dit par Siswo Pramono à Jakarta mercredi. Inclusivité est importante parce que si tous les pays avec la plus grande économie de l'Indo-Pacifique sont fusionnés en un, puis va générer 44 trillions de dollars américains et une combinaison de produits intérieurs bruts, alors que PIB mondial ne s'élevait qu'à 80 trillions, cela signifie que 65% du PIB mondial existe dans l'Indo-Pacifique. C'est pourquoi nous avons besoin d'inclusivité. Si nous perdons la Chine et l'Indo-Pacifique, nous allons perdre 11 trillions. Si nous perdons les États-Unis et l'Indo-Pacifique, nous perdons 19 trillions. Donc nous voulons que tout le monde vienne dans l'Indo-Pacifique. C'est le concept de l'Indo-Pacifique inclusif dans une perspective indonésienne. Selon M. Siswo Pramono, il y a trois principes de coopération dans le concept de l'Indo-Pacifique, à savoir la coopération est transparente, ouverte et inclusive conformément au droit international. L'Indonésie veut toujours utiliser l'ASEAN comme la centralité qui construit le développement de la région Indo-Pacifique. Parce que selon l'Indonésie, le concept de développement de la région Indo-Pacifique de l'ASEAN est important, de sorte que l'ASEAN reste pertinent et joue son rôle central et démontre la capacité de l'ASEAN à gérer le changement environnemental mondial stratégique. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Fondation pour l'éducation Soekarno ou YPS, en collaboration avec l'Université de Bung Karno ou UBK, ont signé un protocole d'accord dans le domaine de l'éducation et de la recherche avec l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela. On souhaite qu'à travers le protocole d'accord, le Venezuela et l'Indonésie puissent renforcer les relations dans divers domaines, y compris la politique, sociale et politique étrangère. Il a été dit l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, Gladys Urbaneja Duran, dans le campus de l'Université de Bung Karno, Jakarta, lundi.
We are signing two agreements, MOU, with the university.
Nous avons signé deux accords, le protocole d'accord avec l'Université de Bung Karno et la fondation de l'Université Bung Karno pour renforcer les relations de coopération dans le domaine de l'éducation, non seulement mon ambassade, mes représentants de l'ambassade, mais aussi de mon pays. Nous avons la possibilité de connecter cette université avec une université ou un établissement d'enseignement de mon pays. Dans le domaine technique, la question sociale, la question politique, la question de politique étrangère, je pense que nous pouvons renforcer nos relations. L'ambassadeur Gladys Urbaneja Duran a déclaré que cette coopération était une preuve de relation étroite entre le Venezuela et l'Indonésie. Cette coopération est la première fois faite par les deux parties. Avant la signature du protocole d'accord, le président de YPS, Madame Rahmawati Soekarno Putri, qui est aussi la fille du premier président de la République d'Indonésie, Soekarno, a envoyé une lettre de félicitations à la réélection Nicolas Maduro en tant que président de la République bolivarienne du Venezuela. La lettre est déposée directement à l'ambassadeur Gladys Urbaneja Duran et lue devant les participants à la réunion. En plus de féliciter Maduro qui a été réélu président vénézuélien, Rahmawati a également félicité tous les Vénézuéliens de ce qu'il écrit comme la plus grande réalisation dans la détermination du paysage social et politique et aussi un meilleur avenir pour le Venezuela. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie à la République de Portugal Ibnu Wewah Yutomo a présenté ses retraits de créances au président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, au palais présidentiel Palacio de Belém à Lisbonne, mardi. Les affaires d'information sociale et culturelle de l'ambassade d'Indonésie à Lisbonne, M. Rudi Winandoko, a déclaré à Antara, Londres, mercredi, que lors de la rencontre avec l'ambassadeur Ibnu Wewah Yutomo, le président du Portugal a déclaré que l'Indonésie était une grande nation et le leader dans la région de l'ASEAN. Par conséquent, l'Indonésie devrait jouer un rôle important au forum international, comme le Portugal continue de jouer un rôle dans le monde international. L'ambassadeur Ibnu Wewah Yutomo a déclaré que l'Indonésie avait la priorité afin d'intensifier la coopération de commerce et d'investissement avec le Portugal. Ceci est en accord avec la direction du président Joko Widodo afin que l'Indonésie puisse tirer de réels bénéfices de chaque relation bilatérale avec les pays amis. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et un petit titre. Pourquoi le 1er juin est-il choisi comme date de naissance de Pancasila? Le 1er juin, l'Indonésie commémore spécifiquement la naissance de Pancasila. Soyez spécial, car depuis 2017, la journée a été désignée comme fête nationale. La décision du 1er juin a été décidée par le règlement présidentiel numéro 24 de 2016 sur la naissance de Pancasila. Le règlement stipule que le gouvernement avec toutes les composantes de la nation et le peuple de l'Indonésie commémore l'anniversaire de Pancasila chaque 1er juin. En regardant le processus de la naissance de Pancasila, il y a des parties qui se demandent pourquoi le 1er juin a été choisi comme la naissance de Pancasila. En regardant l'histoire de la naissance de Pancasila comme base de l'État est basée sur un procès mené par l'agence d'enquête à la préparation de l'indépendance du 29 mai au 1er juin 1945. À cette époque, trois personnages expliqués sur la base de l'État, à savoir Muhammad Yamin, Supomo et Sukarno. Dès le 1er juin 1945, le terme Pancasila a été introduit par Sukarno dans son discours. À cette époque, Sukarno proposait la base de l'État qui contient successivement la nationalité, l'internationalisme ou l'humanité, le consensus ou la démocratie, le bien-être social et la croyance au tout-puissant. Tandis que la séquence de Pancasila actuelle a été à travers les résultats du processus suivant, à savoir la charte Jakarta le 22 juin 1945 et l'établissement de la constitution qui finit également Pancasila le 18 août 1945. En regardant son histoire, il est clair que le terme Pancasila a été élevé le 1er juin 1945 comme base de l'État dans l'ordre, la croyance dans le seul et unique, une humanité juste et civilisée, unité de l'Indonésie, la démocratie guidée par la sagesse dans les délibérations de représentation et la justice sociale pour tous les Indonésiens était adoptée le 18 août 1945. Le peuple indonésien doit certainement connaître l'histoire de la naissance de Pancasila comme la base de l'État d'Indonésie. L'esprit de compréhension et de pratique de Pancasila doit être continuellement améliorée. La célébration d'anniversaire de Pancasila 2018 a pour thème Nous sommes Pancasila, unité, partage, réussite, signifiant Pancasila fait la nation de l'Indonésie unie, ainsi que d'encourager la jeune génération à profiter librement d'une vie prospère qui motive la réussite. Au cours des 73 années de Pancasila, ensemble avec le peuple indonésien, l'esprit de pratiquer et d'appliquer dans la vie quotidienne devrait être fortement ancré dans chaque cœur, comportement du peuple indonésien. Ainsi, avec Pancasila, nous pouvons nous fortifier de toutes les compréhensions et actions qui mènent à la destruction, telles que le radicalisme et le terrorisme. Cher ami, c'était le commentaire.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans la rubrique l'histoire d'aujourd'hui, le 31 mai. Le 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires célèbrent la journée mondiale sans tabac afin d'alerter le grand public sur les dangers pour la santé liés au tabagisme et de défendre les politiques visant à réduire efficacement la consommation de tabac. Le tabagisme, qui tue actuellement un adulte sur 10 dans le monde, est la principale cause de décès évitable. En 2013, la Journée mondiale sans tabac est axée sur l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés. La Journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Ces dernières sont en effet en contact avec un pourcentage élevé de la population cible et ils ont l'occasion d'aider les fumeurs à modifier leur comportement. Ils peuvent aussi donner des conseils et des réponses aux questions relatives aux conséquences du tabagisme et donner l'exemple en s'abstenant de fumer. Le 31 mai 1910, l'Union d'Afrique du Sud avait été créée. L'Union d'Afrique du Sud était un dominion britannique situé à la pointe de l'Afrique du Sud. L'Union d'Afrique du Sud s'est constituée en 1910 à partir de 4 colonies britanniques d'Afrique australe, la colonie du Cap qui constitue alors la province du Cap de Bonne-Espérance, communément appelée province du Cap, la colonie du Transvaal qui devient alors la province du Transvaal, la colonie de la rivière Orange qui retrouve son nom d'État libre d'Orange, la colonie du Natal qui forme alors la province du Natal. L'Union d'Afrique du Sud existe de 1910 au 1961. Le Royaume-Uni agit comme chef de l'État jusqu'à 31 mai 1961, lorsque le pays a annoncé le changement du Commonwealth à la République. Le 31 mai 2002, l'ouverture de la Coupe du monde de football. L'ouverture de la Coupe du monde de football 2002 en Corée du Sud. La Coupe du monde de la FIFA 2002 est la première Coupe du monde qui a eu lieu en dehors des Amériques et de l'Europe. C'était la première fois de la finale de la Coupe du monde à deux pays, à savoir la Corée du Sud et le Japon. La Coupe du monde a eu lieu du 31 au 30 juin 2002 dans 20 villes en Corée du Sud et au Japon. Voici l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en sous-titre, le ministère de l'Environnement et des Forêts accompagne le gouvernement local dans le programme l'Indonésie sans déchets 2025. L'objectif de l'Indonésie sans déchets 2025, grâce à la réduction des déchets d'un montant de 30% et la manipulation des déchets de 70% en 2025, ne peut pas réussir sans un engagement important des gouvernements locaux dans la gestion des déchets. Le ministère de l'Environnement et des Forêts continue d'encourager les gouvernements locaux à adopter des politiques et des stratégies pour traiter les déchets allant des sources de déchets au traitement final des déchets. Rosa Vivienne Ratnawati, directrice générale de la gestion des déchets, déchets dangereux et matières toxiques dangereuses, PSLB3, dans son discours au programme de mentorat sur la gestion des déchets ménagers et déchets ménagers similaires dans la région Kalimantan. L'événement a eu lieu à Jakarta, mercredi 23 mai. Selon Rosa Vivienne, le gouvernement local devrait préparer un document de politique stratégique régionale en tant que document décrivant quantitativement la cible de réalisation et les efforts de gestion des déchets. Dans la politique stratégique du gouvernement local, le gouvernement local développe un programme intégré de gestion des déchets de la source au lieu de traitement final, TPA, est mis en œuvre par toutes les organisations de dispositifs régionaux. Elle a déclaré que cette politique de stratégie régionale sera le plan directeur de la gestion des déchets dans la région qui a mesuré sa réalisation progressivement jusqu'en 2025. Pour soutenir la mise en œuvre de la politique de stratégie régionale, le ministère de l'Environnement et des Forêts a établi un règlement ministériel sur les lignes directrices pour la formulation de politiques et de stratégie régionale pour la gestion des déchets ménagers et les déchets ménagers similaires. Ces lignes directrices guideront toutes les régions dans les gouvernements provinciaux que les administrations municipales et de districts dans la formulation des politiques stratégiques régionales. Le directeur de la gestion des déchets, Nofrizal Tahar, a déclaré que le problème de la gestion des déchets est un petit problème si l'état d'esprit dans la gestion des déchets est modifié. La question du tas d'ordures doit être résolue à la source au niveau du ménage en triant les déchets. Les déchets désagrégés seront plus faciles à gérer. Ils seront donc respectueux de l'environnement et auront potentiellement une valeur économique. Le programme d'assistance à la formulation de lignes directrices de politique stratégique locale pour la gestion des déchets ménagers et des ordures ménagères similaires pour la région Kalimantan est cette fois la deuxième orientation technique, Auparavant, ce programme a été exécuté dans la région de Bali, Nusa Tenggara Ouest et Nusa Tenggara Est. Cher ami, c'était mon Indonésie. connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la danse d'Arja de Bali. Un type d'art à Bali qui est toujours favorisé par le peuple de Bali est Arja. Cet art est sous la forme d'un théâtre ou d'une sorte d'opéra balinais, sous la forme du drame de danse. Le dialogue est appelé Macapat. Macapat est une chanson ou bien une poésie traditionnelle javanaise. Le spectacle d'Arja à Bali a existé en 1814 pendant le règne de Idewa Agung Sakti dans le château de Klungkung. Au début, la danse d'Arja était seulement dansée par une personne sans l'accompagnement de gamelan. Il s'appelle Arja Doyong. Depuis son existence, Arja devient le divertissement du peuple de Bali. Selon sa fonction, Arja est classé dans le groupe de la danse Bali-Balihan sous la forme de théâtre. Arja est l'art de théâtre très complexe parce que c'est un mélange de différents types d'art à Bali comme la danse, le théâtre, l'art vocal, l'art instrumental, la poésie, la pantomime, la mode et aussi les beaux-arts. En effet, Arja est un mélange de deux partisans du théâtre, l'idée qui vient de supporters et du public. Comme une forme d'art de théâtre, Arja est très communicatif avec le peuple. Jusqu'à présent, on peut dire que Arja est toujours très populaire chez les habitants de Bali. Cela peut être vu à partir de la volonté des gens d'affluer vers les festivals organisés chaque année. Arja à Bali est encore dispersé dans de nombreuses régions telles que Bangli, Klungkung, Gianyar, Annapura, Badung, Tabanan, Jembrana et Singaraja. En tant que spectacle, Arja a une fonction pour l'éducation. D'habitude, la communauté, après avoir regardé Arja pendant des jours, va imiter les chansons et aussi les blagues affichées par le groupe qu'ils viennent de voir et les mouvements drôles ou d'expressions sur des événements intégrants vont être répétés dans la vie quotidienne. Ainsi, Arja est un moyen de communication très puissant pour délivrer le message. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci à tous et à demain.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Cher ami, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province javaoise afin de connaître plus loin la langue sundanaise. La langue sundanaise est située à Javaoise, une province de 35 000 km² ayant une population d'environ 48 millions de personnes. La grande population de Javaoise fait également de la langue sundanaise l'une des langues les plus saines, telle qu'elle a été délivrée par Sutejo, directeur du bureau de langue de la province Javaoise.
Oh, bahasa Sunda masih apa namanya sangat-sangat sehat, sangat sehat. Artinya penuturnya
la langue sundanaise est encore très très saine. Cela signifie que les locuteurs sont plus de 5 millions. Le probablement d'extinction des 5 millions de locuteurs est petit. Cependant, si nous défendons pas, ne nourrissons pas, ne cultivons pas, il peut aussi être mort depuis longtemps. Par conséquent, la politique du bureau de la langue de Javaoise, nous devons encore nourrir et développer la langue sundanaise. Le grand nombre de locuteurs ne rend pas la langue sundanaise encore plus sûre qu'ils ne sont pas conservés. Par conséquent, il existe d'autres langues qui sont également utilisées par les résidents de Javaoise.
Ya, yang dihadapi bahasa Sundan begini, dalam budaya itu termasuk bahasa itu kan ada budaya superior dan budaya.
Dans la culture, y compris la langue, il y a une culture supérieure et une culture inférieure. Nous devons admettre que l'anglais est supérieur à la langue indonésienne. L'indonésien est également supérieur au sundanais. Ensuite, il doit y avoir un équilibre. Donc, au bureau de la langue de Javaoise, il y a une phrase « Donner la priorité à la langue indonésienne, préserver la langue locale, la langue sundanaise et maîtriser la langue étrangère ». Par conséquent, les adolescents sundanais doivent reconnaître leur propre identité en utilisant la langue sundanaise comme un moyen de communication quotidienne. Cela devrait rester notre congé. Dans nos écoles, il y a aussi un nom de contenu local. Au primaire, au lycée junior, au lycée, il y a un contenu local de langue sundanaise. Chers amis, c'est un nombre d'exemples de mots en langue sundanaise. Amang, en français, oncle. Mangmelikun, en français, acheter. Pakean, en français, les vêtements. Keur, en français, pour. Barudak, en français, enfant. C'est l'exemple de phrase en sundanais. Mang, mang melikun pakaian keur barudak. Mang, mang melikun pakaian keur barudak. En français, l'oncle achète les vêtements pour les enfants. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. C'était le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales indonésiennes.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous les auditeurs des RRI de Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve encore dans le magazine musical, une rubrique qui vous introduit des chansons indonésiennes. Cette édition, on va vous présenter les chansons pop religieuses de Gito Rolis. Chers auditeurs, pour commencer notre raconte aujourd'hui, je vous présente la chanson s'intitule Cinta yang tulus ou Amour sincère. Restez avec nous à www.voanews.id.
Yeah.
Voilà la chanson de guitaroliste intitulée Cinta yang tulus, l'amour sincère. Le chanteur dont le nom original est Bangun Sugito était le vocaliste d'un groupe de musique s'appelle Derolis, qui était célèbre en 1960. Il publiait activement l'album solo, la désorti 15 albums, y compris l'album religieux dont le titre est Kembali Padanya ou Retourne à lui, lancé en 2017. La chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, Cinta yang tulus ou l'amour sincère, est inclue dans cet album religieux. Cette chanson a déjà été chantée par Guito avec son groupe, Derolis. Mais dans la nouvelle version de cette chanson, Guito a collaboré avec le groupe Gigi. Si je dis que la chanson suivante est encore inclue dans le même album, c'est Hanya padamu aku bergantung ou Je ne dépends que de toi. Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson religieuse s'intitule Hanya Padamu Aku Bergantung. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Pour la terminer, écoutons de chansons de guitaroliste s'intitule De Tekidup ou Sekong de la vie et Kembali Padanya ou Retourne à lui. Bonne écoute et à la prochaine.
Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kemana kami setelah ini? Adakah engkau dengar doaku ini?
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Sayang Allah Maha
mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada tertutup curahan rahmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertobat padanya. Allah Maha Penyayang, penerima taubat, walau dosa sepenuh jagat raya, tiada tertutup pintu taubatnya. Wahai sahabat, cepatlah bertobat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tiada tertutup curahan rahmatnya.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt!
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.